L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Allez, Volant, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente Volant. Volant, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment le marketing a évolué. Bienvenue sur Volant et n'hésitez pas à vous abonner.
Bonjour à tous, je suis avec Thomas Owadenko.
C'est ça.
Qui est le patron d'Octoly. On s'est rencontrés cette année, c'est sûr, mais en février à peu près, je pense. Mm-hmm. On a bossé ensemble, hein, donc juste pour que les gens sachent quand même, cet été, j'ai travaillé un petit peu sur la stratégie d'Octoly. Et on va parler de l'influence, de là où elle vient et de là où elle va. Je pense que toi, tu es une des personnes que je connais malgré tout qui connaît le mieux le sujet, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs sur le marché de l'influence. Donc, globalement, trois typologies d'acteurs, on va dire. Il y a des listes, donc les gens qui font des listes d'influenceurs. Il y a les gens qui font de la mise en relation avec les influenceurs qui sont plus ou moins gros, et ça va de l'agence RP qui connaissait rien au digital jusqu'à des agences spécialisées genre Icône ou Octoly là-dedans aussi d'ailleurs, on peut le dire. Et puis après il y a le troisième truc qui sont les IRM, donc tout ce qui est relation influenceur. La plus connue, ça reste Tracker, je pense, sur le sujet. Donc en fait le marché c'est vachement segmenté, il y a beaucoup beaucoup d'acteurs. Pour toi, c'est vas-y,
on n'est pas dans la même case qu'Icône parce qu'on n'est pas une agence, hein, on est une plateforme et une vraie boîte techno.
Ouais, ça c'est une vraie grosse différence.
C'est une très très grosse différence, mais on évolue par rapport à une boîte comme Icône dans l'univers de la beauté et de la fashion et donc de la femme, avec une approche assez différenciée de ce qu'on peut voir du marché aujourd'hui.
Pourquoi on parle autant de la micro-influence d'ailleurs? En quoi c'est important par rapport à des filles qui ont une audience qui est plus large? Qu'est-ce qu'elles apportent, ces filles?
Parce que c'est l'engagement, en fait. À la fin, une vraie mesure, c'est pas juste des vues, en fait. Les gens et les marques essayent d'aller plus loin et de créer une relation. Et donc, en fait, elles ont un engagement bien plus grand qui paraît assez naturel en se disant, tiens, quand elle a 200 abonnés, elle peut leur répondre. Ou 5000 abonnés, elle peut encore leur répondre. Quand on a 1 million, tu peux plus leur répondre. Et nous, on démontre qu'en fait, l'engagement, il est plus fort, 4 fois plus fort sur les micro-influenceuses que sur les gros. Mais de quel engagement on parle? C'est pas juste les likes, ce sont les commentaires.
D'accord.
Donc c'est vraiment des gens qui vont aller parler à l'influenceuse et qui vont interagir avec elle. Et qui vont interagir autour du produit qu'elle a featuré.
Et puis en cumulé, je me souviens d'un chiffre que j'avais vu, qui était que plus de la moitié des vues sur YouTube, des 2/3 même, sont faits par des micro-influenceuses.
C'est
en fait,
ça. Finalement. Ouais, c'est une grosse pyramide, c'est un gros Hollywood avec une base très très élargie.
C'est ça, ouais. En fait, donc du coup, c'est en ça qu'elles sont intéressantes. Après, la problématique, c'est comment j'arrive à choper toutes ces filles. Enfin, c'est principe. Bon, on parle de beauté, donc là, on parle de filles. C'est pas nécessairement que des filles, mais comment j'arrive à choper toutes ces personnes? Parce qu'effectivement, elles sont tellement nombreuses, je vais pas commencer à créer du lien avec tous ces gens. C'est impossible. Et en fait, c'est ce que vous permettez.
Alors, j'ai juste corrigé sur le mot choper, mais comment on met en relation, en fait, ces marques avec un nombre très très grand d'influenceuses? C'est impossible de leur faire un brief, de travailler parce que ça n'aurait pas assez de résonance. Et le meilleur moyen, finalement, c'est de leur remettre ces produits entre les mains parce qu'elles se les achetaient avant, elles en parlaient. Et là, c'est le meilleur moyen de reacher le consommateur, premier point, la consommatrice, et finalement de mieux contrôler, identifier ce qui se passe à l'intérieur.
Ouais. Comment tu vois l'évolution du marché, de l'influence, en particulier quand on regarde ce qui se passe en Chine, alors je sais que j'insiste un petit peu sur ce podcast en disant faut regarder la Chine, mais c'est vrai qu'il faut vraiment regarder ce qui se passe en Chine, ce qui se passe avec Amazon, parce que moi ça c'est des mouvements qui, enfin j'ai l'impression que ça montre le futur de l'influenceur marketing, et ça les marques l'ont pas bien saisi encore.
Le phénomène est clairement majeur, hein, de l'influenceur marketing, parce que c'est juste les barrières à l'entrée d'un marché qui était structuré autour du marketing qui se sont effondrées.
Ouais.
C'était la télé et la presse, et c'était que les grands groupes qui avaient accès. Mmh. À partir du moment où les barrières sont tombées, reacher le consommateur et lui vendre des choses, ça devient beaucoup plus simple, et ça se fait à travers les influenceuses. Et en fait, Amazon, ils ont compris que c'était une source de trafic et une source de vente, et ils ont récemment ouvert leur programme d'affiliation où en fait chaque influenceur peut créer sa boutique sur Amazon. Donc déjà, quand on peut créer sa boutique sur Amazon, j'ai featuré ses produits sur mes réseaux sociaux et puis sur Amazon, je peux les vendre pour que mon audience puisse continuer.
Donc, comment ça marche ? Elles sont payées
Alors, c'est de l'affiliation, donc c'est le modèle qu'Amazon privilégie depuis le début, et il y a un modèle d'affiliation qui est mis en place, et là où ils sont très intelligents, c'est qu'ils disent aux influenceuses, outre le fait qu'on va vous donner de l'argent, on va aussi vous fournir de la data, vous influenceuses, pour mieux adresser vos prochaines photos ou vos prochaines vidéos qui vont vous permettre de vous améliorer, parce que si elles cliquent sur un lien en dessous de ma photo Instagram, j'arrive sur le produit, c'est un signe très fort de l'engagement, évidemment, ce qui va permettre aussi à l'influenceuse de se professionnaliser à travers la data, parce que quand elles veulent grossir, forcément elles sont obligées d'avoir de plus en plus de data.
Ouais.
Donc ça, c'est Amazon qui est en train de scaler ça.
Et ça s'en est où ? Parce que
c'est assez récent.
On n'entend pas beaucoup parler, en fait.
Oui, mais en fait, si tu vas sur YouTube et tu tapes influenceur Amazon programme, tu vas voir qu'il y a beaucoup de vidéos.
D'accord.
Et ils expliquent tous. Donc en fait, on n'entend pas parler, mais
non.
Si tu regardes les réseaux sociaux, en fait, les influenceurs en parlent. Et donc, on font la promotion du service.
Et c'est quoi ? C'est en France ? C'est aux US ? C'est partout ?
Alors, c'est partout. Moi, je le vois beaucoup aux US, je les vois beaucoup en parler. Mais qu'est-ce que fait Amazon derrière ça pour moi ? En fait, ils regardent ce qui se passe en Chine.
Ouais.
Et ils sont en train de prendre ce qui se passe en Chine. Sur une plateforme comme Taobao, les influenceurs, il y a une expérience qui est encore plus aboutie que juste celle d'Amazon. C'est du live, c'est du jeu. On peut acheter avec l'influenceur et c'est un phénomène qui est multiplié par 1000 par rapport à ce qui se passe dans le Western World. Donc en fait, Amazon, il voit que l'acte d'achat, il est plus juste une fiche produit et puis j'achète, il est plus dans l'entertainment et ils sont en train d'essayer de rentrer là-dedans. Et en Chine, pour le Black Friday chinois, le 11 novembre, eh bien chaque année, ils grossissent le volume de transactions.
On a beaucoup entendu parler effectivement des chiffres.
Enfin, plus de 22 milliards, je crois.
Ouais, c'est dans une
journée.
Exactement. Donc c'était complètement fou.
Et les premiers chiffres qui ressortent de cette année, c'est que en fait sur les 30 marques beauté fashion, il y a 7 influenceuses majeures qui sont dedans. Donc en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à peu près 25% des plus gros magasins en Chine dans la beauté et la fashion sont portés par des individus en fait qui ont créé leur marque de manteaux, de cosmétiques.
Ah donc c'est leur propre marque.
C'est leur propre marque.
C'est même pas des influenceurs qui vendent la marque, les L'Oréal ou.
C'est leur propre marque. Et c'est incarné.
Ah waouh.
Et ce phénomène-là arrive aussi dans le Western World et tu vois Kylie Cosmetics qui est la fille Kylie Jenner de la famille Kardashian qui lance sa marque et qui en 18 mois monte une marque qui fait 400 millions.